Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 13e dimanche. Comme les jours sont venus de sa montée, Jésus se détermine à marcher vers Jérusalem. Il envoie des messagers en avant de lui. En marche, ceux-ci entrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on ne l'accueille pas, car il marche vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean demandent :
Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les détruire ?
Jésus se retourne, les reprend vivement et leur dit :
Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les vies, mais pour les sauver.
Et ils vont vers un autre village. Comme ils sont en marche sur ce chemin, quelqu'un le lui dit :
Je te suivrai partout où tu iras.
Jésus lui dit :
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête.
Il dit à un autre :
Suis-moi.
Et l'autre dit :
Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père.
Il lui dit :
Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va et annonce le règne de Dieu.
Et un autre encore lui dit :
Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord de dire adieu aux gens de ma famille.
Mais Jésus lui dit :
Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le règne de Dieu. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Sentiments d'urgence et exigence, telles sont les impressions que nous donne ce texte. Peut-être pouvons-nous mieux les comprendre en les replaçant dans leur contexte.
Eh bien, avec cet épisode du récit de Luc, nous entrons dans la deuxième phase de la mission de Jésus. Jusqu'alors, Jésus avait prêché en Galilée, la province où il a vécu son enfance et sa jeunesse. La Galilée, on le sait, est située à une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Elle est donc éloignée de ce centre religieux du pays où se trouvent le temple et l'élite politique et religieuse. La première phase de la mission, qui s'est donc déroulée principalement en Galilée, semble avoir abouti à un quasi-échec. En effet, les foules, qui étaient d'abord enthousiastes, vont finir par abandonner Jésus après le festin du pain multiplié. Maintenant, Jésus se doit donc de porter le message au cœur du pays, là où se trouvent les autorités religieuses et politiques, c'est-à-dire les prêtres du temple, les familles des grandes fortunes. Dans ce pays d'Israël, religion et politique sont alors entremêlées. Les prêtres sont censés gouverner au nom de Dieu, qui est le seul véritable roi du peuple. Et même si le pouvoir des prêtres est limité par Rome, qui occupe tout Israël, ce sont pourtant eux, les prêtres, qui, aux yeux de tout vrai juif, sont les autorités légitimes. C'est au chef de son peuple que Jésus doit donc aller porter son message d'un Dieu de miséricorde, d'un Dieu qui fait grâce avant même de faire justice. Il sait déjà ce que sera l'aboutissement inévitable de cette démarche, à savoir le rejet de son message et le rejet du messager. En effet, depuis quelque temps, les prêtres du temple ont envoyé en Galilée des groupes de scribes et de pharisiens pour porter la contradiction à Jésus, pour tenter de le prendre en défaut, afin de le discréditer aux yeux du peuple et de trouver un motif d'arrestation. En allant en Judée, Jésus court donc, très fort, le risque d'être arrêté et condamné. Et malgré cela,
le récit nous dit « il est résolument décidé à monter vers Jérusalem ». Le texte grec a d'ailleurs une belle formule pour dire cette décision résolue. Il dit « il a fermé son regard ». L'expression juive dit la détermination et le courage qu'il faut pour surmonter la crainte. Alors d'où vient cette détermination? Eh bien, c'est dans sa méditation, dans la communion d'esprit avec le Père, que Jésus a vu ce qu'il devait faire. Le Fils de l'homme doit être rejeté par les anciens, être condamné à mort. Le point culminant de cette prière, on se le rappellera, a été vécu sur la montagne lors de la transfiguration, devant les trois disciples qui l'ont accompagné, Pierre, Jacques et Jean. Jésus, en effet, va être totalement transfiguré. La paix, la joie profonde vont faire rayonner son visage, vont se lire sur sa figure. Or, Luc nous dit que Jésus s'entretient alors avec Moïse et Élie, et il s'entretient de son exode qui doit avoir lieu à Jérusalem. Il faut sans doute comprendre le mot exode ici, un mot qui veut dire sortie, et bien il faut le comprendre de la sortie de ce monde, du départ vers le Père. C'est un peu aussi ce que dit le récit de Jean. Jésus sait que son heure est venue de passer de ce monde à son Père.
En quoi l'expérience de la transfiguration a-t-elle conforté Jésus dans sa décision d'affronter la mort?
Sur la montagne, dans sa méditation, Jésus est accompagné par l'expérience religieuse de deux grands prophètes, Moïse et Élie. Ces deux prophètes étaient traditionnellement liés à l'attente d'un sauveur, d'un Messie. La phrase du Deutéronome qui dit que Dieu enverra un jour un prophète comme Moïse était comprise en effet à l'époque comme une phrase qui concernait le Messie.
« C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu des leurs. » Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai.
La littérature juive de l'époque de Jésus voulait aussi qu'Élie revienne en précurseur du Messie et on s'appuyait pour cela sur un texte du prophète Malachie.
Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur.
Mais sur la montagne, ces deux prophètes, Moïse et Élie, ont fait chacun une très forte expérience de Dieu. Évoquons d'abord l'expérience de Moïse.
Moïse monta sur le mont Sinaï et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Le Seigneur Dieu descendit et se tint là avec lui. Moïse invoqua le nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu passa devant lui et il dit « Je suis celui qui est, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. » qui donne sa grâce à des milliers de générations, qui supportent la faute, la révolte et le péché.
Donc pour Moïse, expérience que Dieu est le Dieu de la tendresse et de la miséricorde. Mais voyons quelle est l'expérience que fait Élie lui aussi sur la montagne.
Le Seigneur Dieu dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne, le Seigneur Dieu va passer. » Il y eut un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un silence impalpable. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit. « Je suis passionné pour le Seigneur, le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et l'on cherche à m'enlever la vie. »
Dieu ne se révèle donc pas dans ces signes de puissance que sont le vent violent, le tremblement de terre, le feu d'un volcan. Mais, au contraire, il va se manifester à Élie dans le bruissement d'un silence impalpable, le silence d'un souffle ténu. La manifestation de Dieu est donc une manifestation humble. Et c'est alors que Dieu lui révèle qu'il laissera en Israël un reste de 7000 hommes fidèles. Si le tonnerre et le feu sont les symboles de l'action de Dieu qui vient détruire le mal et les méchants, le bruissement d'un souffle léger peut être vu au contraire comme le symbole de l'amour de Dieu, de sa tendresse. Alors qu'Élie cherche à provoquer la colère de Dieu envers ceux qui en veulent à sa vie et qui ont abandonné l'alliance avec Dieu, eh bien Dieu n'est plus le Dieu des puissances, mais le Dieu de la grâce, et il veut redonner vie et souffle, il veut recréer ceux qui s'ouvrent à sa miséricorde. C'est ainsi en tout cas que Paul, dans la lettre aux Romains, interprète cette réponse.
« Je me suis réservé 7000 hommes. » De même, dans le temps présent, il y a aussi un reste selon le libre choix de la grâce de Dieu.
Le chiffre de 7000 est d'ailleurs un nombre qui marque l'universalité. C'est donc tous, tout être humain qui s'ouvre à l'amour de Dieu et qui sauve ainsi sa vie par la grâce de Dieu. Avant même le jugement de la justice de Dieu, il y a l'amour qui est pardon gratuit. Ainsi, lors de cette expérience de la transfiguration, Moïse, comme Élie, vont conforter Jésus dans le choix qu'il a fait d'être le missionnaire d'un Dieu de grâce et de miséricorde. Par leur propre expérience, Moïse et Élie confirment Jésus dans cette certitude que l'amour et le pardon sont finalement plus forts que le mal et la mort. Son message est vraiment en accord avec la volonté de Dieu, et c'est cette certitude qui inonde l'être de Jésus d'une paix divine qui transfigure son regard.
Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les détruire ?
Le groupe qui entoure Jésus dans sa montée vers Jérusalem est sans doute assez important. Il comprend les 12, bien sûr, les femmes qui accompagnent habituellement Jésus, mais aussi d'autres disciples. Et ce nombre demande probablement qu'on envoie des gens en éclaireur pour prendre les dispositions qui sont nécessaires au coucher de tout ce monde, même si ce coucher peut se faire en plein air. La province de Samarie, où Jésus et ses disciples entrent, se trouve située entre la Galilée, là où se trouve donc Nazareth, au nord du pays, et la Judée, au sud, où se trouve Jérusalem. Les Judéens, les habitants donc de la région de Jérusalem, et les Samaritains, sont des quasi-ennemis depuis très longtemps. Les Juifs de Jérusalem considéraient les Samaritains comme des hérétiques. Les Samaritains étaient une population métissée, de gens qui étaient mi-juifs, mi-païens. En effet, au cours des siècles, les Juifs y avaient contracté de nombreux mariages avec des païens. La foi dans le Dieu d'Israël y est aussi mêlée à des croyances païennes. Ils avaient également construit sur le mont Garizim un temple qui était le concurrent de celui de Jérusalem. La plupart des gens de Galilée préféraient faire un long détour pour se rendre à Jérusalem en contournant la Samarie, plutôt que de prendre le chemin direct qui traversait cette province. Jésus, lui, semble vouloir passer par la Samarie, montrant ainsi qu'il ne considère pas les Samaritains comme des gens à éviter. Il manifeste là sa volonté de dialogue qui veut dépasser les tabous, les exclusions et les divisions. Il a déjà prouvé, aux yeux de tous, son regard fraternel sur ces Samaritains. Souvenons-nous de la parabole où Jésus met en scène un bon Samaritain. Qui, en effet, va se montrer le vrai prochain du Juif qui est laissé à moitié mort par ceux qui l'ont attaqué sur la route de Jéricho? Eh bien, ce sera le Samaritain, et non pas le prêtre et le lévite du temple de Jérusalem. Devant le refus de le recevoir, Jésus a sans doute le comportement qu'il a déjà recommandé à ses disciples.
Dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y. C'est de là que vous repartirez. Si l'on ne vous accueille pas en quittant cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux.
Lorsque Jésus aborde quelqu'un, il est important pour lui de témoigner de cette miséricorde de Dieu et non pas du jugement. L'expérience spirituelle de la transfiguration nous a donné l'esprit dans lequel Jésus veut vivre sa mission. Il ne sera pas le Messie justicier que Jean le Baptiste annonçait et attendait.
Il vient celui qui est plus fort que moi. Il a sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son air et pour accueillir le blé dans son grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas.
Eh bien, c'est pourquoi Jacques et Jean montrent qu'ils n'ont pas encore vraiment compris le choix de Jésus lorsqu'ils veulent appeler le feu du ciel sur le village samaritain qui refuse d'accueillir Jésus. Ils sont encore, finalement, sur la longueur d'onde de Jean le Baptiste.
Jésus se retourne et le reprend vivement. « Vous ne savez donc pas de quel esprit vous êtes ?»
Eh bien, comment se fait-il qu'après plusieurs mois de compagnonnage avec Jésus, les disciples soient si peu imprégnés du message de leur maître ? « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », c'est pourtant ce qu'il n'a cessé de leur répéter. « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour bâtir. »
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. »
« Le Fils de l'homme n'est pas venu pour châtier, mais pour pardonner. »
Ne vous posez pas en juge, ne condamnez pas, acquittez, donnez. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Il fallait se réjouir, en effet, dit le père au frère aîné dans la parabole du retour du prodigue. Car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Le Fils de l'homme n'est donc pas venu pour être servi, mais pour servir.
Lequel est le plus grand ? « Celui qui sert ou celui qui est à table ? Or moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. »
Et lors de l'envoi en mission, Jésus a donné la même consigne.
« Dans quelque maison que vous entriez, dites « paix à cette maison ». Si s'y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. »
Si les disciples ne sont pas accueillis, si le message de paix est rejeté, la seule chose qui est permise, c'est de montrer qu'on n'est pas responsable des conflits en secouant la poussière de ses sandales. Comme nous sommes loin de certaines pratiques qu'on a pu croire chrétiennes, comme les bûchers de l'Inquisition ou les excommunions, comme nous sommes loin du visage d'un Dieu dont on doit à tout moment redouter le courroux, comme le chante le cantique cipé évangélique du minuit chrétien.
Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux.
La manière évangélique de vaincre le mal, un mal qu'il faut d'ailleurs toujours avoir le courage de dénoncer, la manière évangélique de vaincre le mal n'est pas la mort du malfaisant, mais sa conversion, et celle-ci ne peut s'obtenir que par l'amour. C'est Abraham Lincoln qui disait à ceux qui lui reprochaient sa politique « Est-ce que je ne détruis pas mes ennemis par le fait que je m'en fais des amis ?» Gandhi disait aussi « La violence de ton ennemi doit fondre au feu de ton amour. » Mais un tel idéal est coûteux. Et Jésus sait qu'il lui faudra en payer le prix, et le prix fort, le don total de sa vie. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Cet esprit qui possède le cœur de Jacques et de Jean, c'est précisément l'esprit qui va condamner Jésus à la croix. Dans l'écrit de Luc, la première phase de la mission de Jésus avait été inaugurée à la synagogue de Nazareth. Cette prédication à Nazareth avait été un échec parce que les gens du village n'avaient pas accueilli le message de Jésus. Or, Jésus parlait d'un Dieu de grâce et non de justice. Et après s'être étonné du message sur la grâce que Jésus prêche, ses compatriotes vont bouillir de colère. C'est que Jésus leur dit qu'ils n'ont aucun privilège devant Dieu du seul fait de leur appartenance au peuple juif, au peuple de Dieu, du seul fait qu'ils sont des gens de Nazareth. Dieu n'intervient pas en faveur des humains en se basant sur leurs mérites, sur leurs bonnes actions. Dieu donne à chacun selon ses besoins, et son amour est toujours absolument gratuit. Dieu ne donne pas uniquement, ou même en priorité, à ceux qui sont membres du peuple de Dieu. Mais Dieu guérit et donne ses secours aussi bien aux juifs qu'aux païens. Cette gratuité de l'amour de Dieu choquera toujours ceux qui comptent sur leurs droits devant Dieu parce qu'ils sont titulaires d'un certificat de fils de Dieu et parce qu'ils sont fidèles à ses commandements. Et Luc, à travers la réaction des gens de Nazareth, a évoqué déjà la fin tragique de Jésus.
En entendant ces paroles, ils furent remplis de colère. Ils menèrent Jésus jusqu'à un escarpement de la colline, hors de la ville, pour le précipiter en bas.
Cette description, en effet, peut évoquer le lieu du calvaire où Jésus sera crucifié. Le Golgotha se trouve, en effet, en dehors de la ville de Jérusalem et comporte une petite hauteur qui rappelle la forme d'un crâne. Ici, au début de cette deuxième phase, sur la route de Jérusalem, ce sont les Samaritains qui refusent le message de grâce de Dieu. Et cela, ils le font en refusant d'accueillir Jésus et ses compagnons. Au-delà du fait lui-même, nous sommes devant ce mystère du refus de l'amour. La bonté, la grâce s'offrent sans s'imposer, et dès lors, elle s'expose au refus.
Je te suivrai partout où tu iras.
Ainsi, au seuil de cette montée vers Jérusalem, Jésus veut donner le ton à ses disciples. Ni lui, ni les siens ne doivent être détournés de ce choix de la bonté inconditionnelle, de ce choix de l'amour pour tous. Pour Jésus, la bonté et le pardon seront en effet la seule arme pour changer les cœurs, et par là pour changer le monde. C'est ainsi que peut advenir ce monde marqué par le divin, que la Bible appelle le règne et pour lequel nous prions chaque jour. Que ton règne vienne sur terre comme au ciel. En trois croquis qui nous surprennent par une très grande exigence, Jésus va tracer les conditions pour devenir son disciple. D'abord, abandonner toute sécurité. Nous sommes à l'heure cruciale, au terme de la mission de Jésus qui va s'achever au calvaire. Les disciples doivent bien comprendre où Jésus va les mener.
Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive.
Le mal dans ce monde est trop grand pour qu'il puisse être combattu et vaincu à peu de frais. Il ne peut suffire de dire de bonnes paroles moralisantes. Il ne peut suffire de philosopher sur le mal en vivant à l'abri dans le confort de son chez-soi.
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête.
Après la première exigence qui est d'abandonner toute sécurité, la deuxième est de dépasser les solidarités de clan. Il ne peut suffire non plus de pratiquer la solidarité avec ceux qui nous sont sympathiques, avec ceux qui pensent comme nous, avec ceux de notre clan.
Je vais te suivre, mais permets-moi d'aller faire mes adieux à ma famille.
Jésus prend prétexte d'un petit fait, celui d'un disciple qui donnait priorité à sa famille sur l'urgence de l'annonce de l'Évangile. Il prend ce prétexte pour donner une leçon plus générale. Il faut dépasser les frontières de nos groupes protégés. Dépasser même les frontières de la famille, dans l'hypothèse où les liens familiaux deviennent un obstacle à une fraternité qui doit être sans frontières pour qu'elle soit vraiment la fraternité des fils et filles de Dieu. C'est ainsi qu'est le règne de Dieu, le dépassement des liens de clan. Jean avait déjà voulu empêcher quelqu'un de chasser les démons au nom de Jésus parce qu'il n'était pas du groupe des disciples. Et Jésus avait répondu, « Ne l'empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Pour Jésus, la fraternité doit être sans frontières, ou bien elle n'est pas. Il n'y a pas de vraie solidarité lorsqu'un groupe protège ses membres en ignorant les autres groupes. Le peuple de Dieu ne saurait se construire à l'abri dans un monde réservé et clos. Et nous pouvons penser là à certaines solidarités syndicales de professionnels bien nantis qui ignorent toute solidarité avec les travailleurs les plus mal payés ou avec les sans-emploi. Ou encore, penser à notre indifférence de gens de pays riches envers les miséreux des pays du tiers-monde. Ou encore, nous pouvons penser à certains groupes ethniques qui font leur solidarité en tuant les autres sous prétexte de purification ethnique. Et nous, disciples de Jésus, Avons-nous vraiment dépassé les divisions entre protestants et catholiques, entre catholiques engagés politiquement et catholiques charismatiques, entre chrétiens et musulmans, entre chrétiens et juifs? Troisième exigence, laisse les morts enterrer leurs morts. Cette réflexion de Jésus peut sembler dure et même blasphématoire. La tradition juive, en effet, oblige la piété filiale à assurer les funérailles des parents. C'est un devoir sacré et les célébrations funéraires durent 8 jours. Jésus ne prêche sûrement pas de négliger ce devoir. Souvenons-nous qu'il critique ceux qui donnent au temple ce qu'ils doivent donner à leurs vieux parents.
Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition? Dieu a dit en effet, « Honore ton père et ta mère, et encore, celui qui maudit père ou mère, qui soit puni de mort. »
Mais nous savons aussi que l'amour familial ne saurait nous replier sur le clan familial et nous dispenser de cet amour universel que prêche l'Évangile et qui est le seul qui puisse vraiment bâtir un monde selon l'Esprit de Dieu.
Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Peut-être aussi, Jésus joue-t-il sur le double sens du mot « mort », la mort physique et la mort spirituelle. La manière de vivre la Torah établissait en effet une séparation entre les Juifs et les autres peuples. Paul l'exprimera très bien dans la lettre aux Éphésiens.
C'est lui, Christ, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la Torah et ses préceptes avec leur observance. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches.
L'évangile que Jésus prêche est un vin nouveau offert à tout être humain. Et il faut pour cela quitter un monde clos et refermé sur lui-même, un monde qui ne mène qu'à la mort spirituelle. Mais paradoxalement, cette annonce de la bonté et de la fraternité universelle pourra conduire le disciple à la mort de la croix, comme cela a conduit son maître.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet, notre adresse www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.
So